Je m'appelle Vanessa, je suis nutritionniste et passionnée de sport. Au cours des dernières années, la montée en popularité des médias sociaux a accéléré le partage d'informations contradictoires en nutrition. Mon objectif avec ce podcast, c'est tout simplement de te présenter les nombreuses nuances au travers des points de vue divergents de plusieurs experts. Ensuite, ce sera à toi de te faire une tête en fonction de tes valeurs, ton vécu et bien sûr, des données scientifiques actuelles. Bonne écoute! Hello, hello! Vous écoutez le podcast Zone Grise, épisode 15. J'ai comme fait ma petite intro là, from scratch avec mon invité, donc je me répéterai pas pour rien ici. La seule chose que je veux ajouter, c'est je suis so sorry parce que je réalise qu'on m'entend un petit peu mal encore une fois. Colin, je dois faire attention à ça. Mais vous allez voir, de toute façon, toute la lumière va sur mon invité qui est si intéressante, puis on l'entend très bien. Donc aujourd'hui, épisode avec Bougeotte et Placotine, donc Sarah en fait, de Bougeotte et Placotine, je vais la nommer quand même. Donc je vous laisse sur cet épisode, bonne écoute!
By the way, si t'aimes le podcast, n'hésite pas à me retrouver sur les différentes plateformes numériques. Donc, tu peux me trouver sur Facebook à Vanessa Daigle Nutritionniste, Instagram au van-baramba Nutritionniste et finalement, mon site web vdnutrition.com.
Bonjour! Aujourd'hui, un épisode un peu différent de l'habitude. Je sais que je vais m'adresser à un public qui est peut-être un petit peu plus niché, mais j'ai sondé ma communauté là, sur le sujet et j'ai constaté qu'il y avait un bel intérêt. Donc, je m'adresse aux futures et aux nouvelles mamans aujourd'hui. Je suis super heureuse d'être accompagnée de Sarah, qui est la fondatrice de Bougeotte et Placotine. Donc, comme vous le savez probablement, c'est pas la première fois que j'en parle, mais j'en suis à 5 mois de grossesse. Donc, j'ai un nouvel intérêt là, qui m'est né pour tout ce qui est la maternité, les petits poupons. Fait que je suis super contente de m'entretenir aujourd'hui avec Sarah. Donc, salut Sarah, merci d'être là.
Salut, ça fait vraiment plaisir d'être là avec toi aujourd'hui.
Merci. Donc, écoute, je vais te laisser te présenter toi-même, dans le fond, me parler un peu peut-être de ton parcours, de ce qui t'a amené justement à vouloir lancer les centres Bougeotte et Placotine. Puis si je ne me trompe pas, je pense que en tout cas, ben, probablement parce que je suis nouvelle à m'intéresser à tout ce qui est maternité, ben, j'ai l'impression que vous vous démarquez particulièrement là, au Québec. Je ne sais pas s'il y a vraiment de la concurrence dans ce créneau-là. Fait que tu peux nous parler un peu de tout ce qui est de l'univers là, de l'entraînement physique côté maternité, nouvelle maman, là, puis de qui tu es aussi. Là. Fais-nous un petit topo.
Parfait, avec plaisir. D'abord, félicitations, Vanessa. Je ne l'avais pas dit officiellement. donc, c'est ça, moi, en fait, je suis kinésiologue de formation. Ça fait plusieurs années que j'ai terminé. Suite à mon baccalauréat en kinésiologie, j'ai des amis qui étaient avec moi au bac, qui sont tombées enceintes. Des fois, je fais à la blague, là, je dis, nous, en kinésiologie, tu sais, il y avait tellement pas d'emploi que soit on continuait d'étudier, on changeait de domaine ou on faisait des bébés. mais durant le baccalauréat, on avait vraiment à peine touché à la maternité. Et moi, depuis que je suis toute petite, je savais que je voulais être une mère, mais je suis aussi une sportive dans l'âme. J'ai vraiment besoin de faire du sport. Donc, mes modèles, quand j'étais jeune ou adolescente, c'était vraiment les mères actives. Tu sais, j'étais vraiment... Oui, mais tu sais, les femmes en plein air avec leur enfant, tu sais, qui sortaient un peu du cadre, là. Mm-hmm. Donc, bref, mes amis, quand elles sont tombées enceintes, il y avait plein de mythes qui circulaient vraiment là. Tu sais, on était des kinésiologues, on était supposés pouvoir encadrer les mères, mais c'était comme, hey, tu peux pas courir premier trimestre, le bébé, il sera pas attaché, tu sais.
Ben oui, justement, là, ça, on va en reparler plus tard, mais ça a vraiment évolué. T'es-tu capable de nous situer, là, en termes de quelle année, là, mettons, toi, ton bac?
Ça doit faire à peu près, je pense, je dirais,
pas 2007, dans la barre, là.
Je pense, en 2007, j'ai fini
okay, moi, mon
bac.
Mais même encore aujourd'hui, tu sais, moi, il y en a qui me disent « Ah, t'es sûre, l'entraînement? » Mais bref, on y reviendra, je te laisse poursuivre.
Oui. Non, il y a vraiment du chemin à faire, là. Disons qu'on défriche là, depuis 9 ans. Là. Donc, c'est ça, j'ai décidé de continuer à la maîtrise. Donc, j'avais déjà décidé après mon bac, en fait, de continuer. Je voulais m'orienter vers une maîtrise en communication. Ça m'intéressait vraiment. Finalement, il n'y avait pas ce que je cherchais. Je suis retournée faire une maîtrise en kinésiologie. Comme coureuse, je me suis d'abord intéressée aux préventions de blessures. Puis, c'est ça, avec mes amis qui sont tombés enceintes, j'ai comme fait, OK, non, je veux vraiment en apprendre plus sur comment s'entraîner durant la grossesse et comment revenir en forme après, en période postnatale, parce qu'on dirait qu'il y avait ce message-là qui disait, quand tu as eu des enfants, c'est normal que tu t'oublies. C'est normal que tu t'occupes plus de toi. Le focus va être sur l'enfant. Puis, c'est comme, est-ce qu'on peut s'occuper de soi quand même et s'occuper de son enfant? Exactement. Donc, j'ai fait ma maîtrise et j'ai découvert un monde. J'ai découvert de l'information incroyable. Il y avait déjà des études qui commençaient à s'intéresser, très peu, mais quand même des études qui s'intéressaient à la santé de la femme. On étudiait des programmes de rééducation et on commençait à s'intéresser à tout ce qui était plancher pelvien, les muscles abdominaux profonds, la diastase. Donc, suite à cette maîtrise-là, j'ai fait parallèlement aussi un programme, en fait, un micro-programme en exercice thérapeutique, ce qui m'a permis vraiment d'approfondir mes notions anatomiques et aussi de biomécanique. Donc, suite à ma maîtrise et tout ça, ben je suis tombée enceinte. C'était comme une tendance. Je travaillais sur ma maîtrise en même temps dans une clinique de physiothérapeute aussi qui travaillait beaucoup, beaucoup avec la musculature profonde. Il était super avant-gardiste. Là. Ça a vraiment été comme la synchronicité extraordinaire qui est passée dans cette période-là de ma vie. Puis, c'est ça, je suis tombée enceinte. J'ai eu ma première fille. Puis là, j'avais vraiment beaucoup d'informations. Puis je me disais, faut vraiment que je puisse partager ces notions-là avec toutes les mamans. Parce que là, justement, je vais dire 10-15 ans. Et c'est encore comme ça dans plusieurs hôpitaux. Étant donné que les médecins n'ont pas cette formation-là en rééducation postnatale ou quoi que ce soit, comment entraîner les nouvelles mamans ou les femmes enceintes, tu sais, ça fait juste pas partie de leur cursus. Ce qu'on disait aux femmes en postnatal, c'était « ne fais rien, attends 4 à 6 semaines, puis reprends ton sport. Mm-hmm. » Là, tu sais, c'était comme complètement illogique. Notre corps y est blessé, on ne parlait pas de progression, on ne parlait pas d'exercice spécifique, puis on disait « cours pas trop tôt parce qu'il ne faut pas que tu aies des fuites ». En tout cas, bref, c'était assez.
Ouais, mais je suis heureuse de t'entendre parce que moi, c'est encore comme dit là, à ce jour-là. « Ah, attends-toi pas à repartir tout de suite, là, va falloir que tu... » Parce que moi, j'ai de la misère à vivre sans activité physique.
Oui.
Mais ouais, super intéressant, vraiment.
Ben, en fait, c'est ça, c'est que je me disais, il y a une manière de faire. Bien entendu, on ne fera pas un marathon 3 jours après avoir accouché. Il faut respecter le corps de la femme, le stress qu'elle a vécu, tous les impacts de l'accouchement et de la grossesse. Le corps, il est blessé durant la grossesse et l'accouchement, surtout les... Ben, je dirais surtout non, pas surtout, là. En fait, que ce soit une césarienne, que ce soit un accouchement vaginal, j'aime ça parler que ces muscles-là sont foulés comme une blessure. Donc, ça va prendre une progression. Donc, tout ça pour dire que je voulais vraiment partager cette information-là. Puis, moi, suite à ma fille, j'étais à Sherbrooke, j'ai fait mes études à Sherbrooke. J'ai vraiment trouvé ça difficile. J'avais je sais pas si ça existe vraiment, des babies, là, bébé à besoin intense, mais moi, ma fille, elle avait vraiment... vraiment, j'étais nouvelle mère, là, à 27 ans, puis je connaissais pas vraiment ça. Mais j'avais un bébé qui avait beaucoup de besoins, qui pleurait énormément, qui faisait des coliques. Non, mais en fait... Pour moi, je me suis vraiment sentie au niveau hormonal, avec les hormones, c'était très difficile. Puis on habitait en campagne, puis j'ai dit à mon chum, on déménage à Québec, je viens de Québec, on déménage à Québec, on s'installe au centre-ville, puis tu sais, je vais partir un projet, là.
Ah ouais, t'avais besoin de soutien, puis t'avais besoin de... Le projet, est-ce que c'est parce que tu avais besoin de te retrouver un peu? Est-ce que tu
en fait,
que tu t'étais perdue un peu? dans tout ça ou...
En fait, au niveau de la carrière à ce moment-là, tu sais, bon, j'avais travaillé dans une clinique de physio qui essayait justement aussi dans cette clinique-là, me donnait quand même de la place pour que je développe au niveau des femmes. Mm-hmm. Mais je sentais que c'était pas ça mon chemin. Donc, j'en avais parlé à ma mère aussi qui était à Québec. J'ai dit, il faut vraiment que les femmes aient un espace pour elles, pour qu'elles puissent se rassembler, puis qu'on puisse leur faire faire les bons exercices vraiment tôt après l'accouchement. Fait que c'est vraiment comme, juste, je suis un petit peu comme ça dans la vie, là, c'était comme plus fort que moi, fallait que ça se fasse, mon chum... Il a juste accepté. Donc, lui, il est enseignant. Il n'y avait pas de job. Bref, on est arrivé à Québec. Les deux, pas de job. Moi, j'étais en congé de maternité.
Oh, bon.
Il n'avait même pas visité le condo qu'on avait acheté, en fait. Mais bref, je suis arrivée à Québec. Mon congé de maternité, ça a été pour partir le centre Bougeotte et Placotine. Ma fille, elle avait 10 mois quand on l'a ouvert. Puis, on a eu une super belle réponse. Donc, c'est de là que ça vient, mon entreprise, tout ça me semble, c'est long comme réponse.
Non, mais c'est parfait, puis c'est super intéressant, puis justement, il y a beaucoup de femmes, dans le fond, qui profitent aussi du congé de maternité pour devenir entrepreneur, fait que t'as pas fait exception là-dedans, mais en plus, t'es allé chercher un peu le créneau qui allait conjointement de pair avec ta maternité, fait que ça, c'est cool aussi, là. Puis, dans le fond, fait que ça a démarré à Québec, le premier centre Bougeotte et Placotine, c'est ça?
Exactement. Puis, notre premier centre, il est comme unique par rapport aux autres parce qu'il y a quand même un grand espace café. Donc, ça a été aussi le début des cafés maman-bébé. Ça n'existait pas non plus à ce moment-là. Donc, là, maintenant, on a décidé de modifier. Dans les autres Bougeotte et Placotine, il y a toujours un espace café. Mais là, c'était vraiment gros en plus. Et c'était super important pour moi qu'il y ait la communauté de femmes, qu'elles puissent s'entraider et tout ça. Mais en toute transparence, mon but n'était vraiment pas de devenir entrepreneur. Tu sais, je dis souvent, j'aurais pas vendu des bobettes, là. Tu sais, c'était vraiment ma mission de vie de partir ce projet-là. Et ça a donné que la manière la plus rapide pour avancer, c'était par l'entrepreneuriat. Mais tu sais, à la base, j'ai même pas réfléchi que je devenais une entrepreneur ou que je me lançais en affaires, c'était comme plus un besoin plus fort que moi d'informer les femmes et de changer les choses quant à la prise en charge des nouvelles mamans là, puis des femmes enceintes.
Mmh. Ben, on dit souvent justement que les entreprises qui fonctionnent bien, c'est les entreprises qui ont un « why » qui est très puissant. Fait que, tu sais, il faut faire justement le pourquoi qu'on fait ça, dans le fond. Puis toi, c'est vraiment ça qui a l'idée de ton projet. Fait que c'est pas surprenant du tout que ça fonctionne, surtout qu'il y avait un besoin criant, là, quand même, dans le domaine. Puis, avant qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet, là, peut-être pour ceux qui nous écoutent, qui doivent comprendre un peu globalement c'est quoi Bougeotte et Placotine, là, mais est-ce que tu peux nous expliquer concrètement c'est quoi, finalement, les centres Bougeotte et Placotine?
Oui, en fait, c'est des centres de mise en forme avec espace café. Donc, on a deux salles de mise en forme. Notre objectif, en fait, c'est d'offrir des cours de groupe principalement. On a aussi des cours privés, mais principalement des cours de groupe et avoir une offre vraiment variée et vaste qui permet à la fois de répondre au goût des mamans, mais aussi aux besoins pour chacun des stades de la grossesse, mais aussi chacune des phases de la période postnatale. Donc, notre objectif, c'est vraiment d'avoir là, entre 30 et 40 cours. C'est du semi-privé entre 6 et 10 personnes. On est tous, majoritairement, en fait, là, presque tous, des kinésiologues ou des professeurs de yoga formés en périnatalité. Donc, on a vraiment une approche de professionnel de la santé. Là, c'est pas juste comme bouger de la mise en forme. On est vraiment comme là pour accompagner les femmes dans cette période-là. Pour qu'elles aient le moins de séquelles en lien avec l'accouchement. Puis nous, ben c'est ça, tu sais, on veut les motiver à bouger puis avoir des saines habitudes de vie. Puis notre espace café, c'est vraiment pour allaiter, donner de boire, jaser, placoter. Là, c'est le côté Placotine de Bougeotte et Placotine. Et on offre aussi des ateliers sur différents sujets donnés par des professionnels de la santé. Donc, j'ai une petite obsession sur la justesse des informations qui sont véhiculées. Donc, pour moi, je trouve qu'il y a beaucoup comme c'était dans le temps avec la mise en forme périnatale. C'était un peu n'importe qui entraînait les mamans puis les femmes enceintes. Donc, pour moi, si on parle de développement moteur de l'enfant, ben ça va être un physio ou un ergo qui va venir donner l'atelier. Si on parle d'alimentation, ça va être une nutritionniste. Si on parle de sommeil, ça va être soit une travailleuse sociale ou une psychoéducatrice qui va aussi parler du point de vue de l'enfant. Donc, tu sais, c'est ça. On essaye vraiment d'avoir comme des centres un peu de santé axée sur la femme enceinte et la nouvelle maman.
Très intéressant. Puis, la question que tout le monde se pose, sauf moi parce que j'ai eu la réponse avant l'entrevue, en mode COVID, comment ça se passe tout ça?
En fait, quand c'est arrivé la COVID, on s'entend que les gyms ont été un des endroits, là, des sphères de l'économie qui a été le plus touché.
Ouais.
On a testé différentes choses, mais deux semaines après le début de la vague 1, on a décidé de rassembler tout le monde parce qu'il y a quand même une franchise à Montréal, une franchise à Sherbrooke, 300 dans la région de Québec. Donc, on s'est mis tout le monde ensemble pour offrir une offre vraiment variée pour notre clientèle. On a les mêmes cours, on a des forfaits illimités, on a des cours qui sont à la carte, on a vraiment adapté nos cours pour pouvoir les faire en ligne, mais on a décidé, nous, parce que c'est tellement important pour nous, le feedback, la communauté, on a décidé de le faire en direct. Donc, c'est des cours qui sont donnés via la plateforme Zoom qui permet justement de répondre aux questions, de voir les mamans, de les corriger. Donc, c'était bien à la vague 2 parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand la vague 1 est arrivée, je pense que tout d'un coup, de l'entraînement en ligne, gratuit, c'était comme, il y en avait partout. Tout le monde faisait des workouts et...
Ça a été garoché sans être réfléchi, mettons.
Exactement. Donc, moi, je suis vraiment contente parce que dès le début, ça a été payant. Tu sais, on s'est dit, moi, la qualité de ce qu'on offre, ça a une valeur. C'est notre travail, c'est notre formation. Donc, quand la vague 2 est arrivée puis on a dû refermer, ben tout était finalement, ça avait continué. Ouais. Parce que ce que ça a permis aussi, la vague 1, pour de vrai, nous, ça nous a donné vraiment un gros boom au niveau de se faire connaître, en fait. On est allé faire du rayonnement grâce à ça. On a des filles en région, honnêtement, là, vraiment toute transparence. Je pensais plus à faire une application que faire des cours en direct avant, là. Mm-hmm. Mais là, je me suis rendu compte que c'était merveilleux de pouvoir toucher des mamans en région qui n'ont pas de budget et placotine. Fait que moi, là, ça m'a tellement touché voir des mamans de Matane, des Îles-de-la-Madeleine, de Grimby, tu sais, de Val-d'Or nous suivre, puis qui aient accès à les compétences de nos entraîneurs, de notre équipe.
C'est clair. Eux, ils doivent capoter. Dans le fond, le monde en région, ils ont de l'offre plus que jamais. Là. C'est vraiment, c'est vraiment un beau timing pour eux et une belle opportunité qu'ils ont parce que si ce n'était pas la pandémie, effectivement, ils n'auraient pas eu accès à des services de qualité comme ça. Là. Ben, peut-être éventuellement, justement, ça faisait partie des projets de certains. Ils ne veulent pas, on se dirige de plus en plus vers le web, mais là, clairement, ça s'est accéléré. Là.
Tout à fait.
Puis, tu sais, même moi, de mon côté, honnêtement, j'ai toujours été, j'ai toujours été au gym, puis j'aime ça, moi, aller au gym, j'y travaillais même. Puis là, tu vois, en raison de la pandémie, je travaille maintenant 100% de la maison, puis c'est pas quelque chose qui va changer, pandémie ou pas, c'est quelque chose qui va rester. Fait qu'on dirait que des fois, de me dire, ah, tu sais, si je m'entraîne, avant, j'aimais pas ça du tout, m'entraîner de la maison. Puis là, j'ai comme pogné le beat un peu, puis là, tu sais, je me disais, si je m'entraîne de la maison, mettons, mon workout me prend une heure, mais s'il faut que je me déplace pour aller au gym, il faut que je considère 2 heures dans ma journée. Fait que ça aussi, je sais que ça va rester, même si à la base, moi, tu m'aurais parlé de training à la maison il y a comme 2 ans, j'aurais dit, non, c'est pas pour moi. Ben, crime, je m'y fais. Surtout que là, écoute, si genre un petit poupon, ben, ça va être tant mieux parce que je vais avoir plein de belles opportunités, là.
Mais exactement, tu sais, il y a des mamans aussi, des fois, qui ont des bébés en néonatalité, qui ont des bébés prématurés qui veulent pas sortir avec, tu sais. Donc, il y a certaines femmes qui avaient accès, là, je le sais, là, quand on a réouvert, qui avaient accès à nos succursales, mais qui ont quand même décidé de rester en ligne.
Ben oui, c'est ça.
Mm-hmm. Un de nos beaux projets de COVID, j'en suis vraiment fière, mais on a une belle collaboration avec le CHUL parce que moi, je donne beaucoup de formations et de conférences à des médecins de famille, puis à des gynécologues et tout ça. Donc, on a vraiment une belle relation avec les gynécos du CHUL de Québec. Moi, j'ai déjà fait du bénévolat aussi. Donc là, on a lancé un cours pour femmes alitées. Donc, tu sais, avoir la confiance du CHUL. Donc, on offre gratuitement, en fait, le cours pour les femmes qui sont au CHUL. On espère justement pouvoir développer avec d'autres hôpitaux aussi. D'autres hôpitaux. Puis, il est payant là, pour celles qui sont alitées et à la maison. Donc, c'est une manière un peu de pouvoir payer l'entraîneur qu'il donne. Donc, tu sais, ça, c'est tellement... Ça, pour moi, ça, c'était un rêve, là. Tu sais, dire, OK, on sait tellement que les femmes alitées devraient bouger. Et là, on a la confiance du CHUL.
Ben oui.
On leur dit, on va les faire bouger. Ne vous inquiétez pas. Ça va être sécuritaire. Ça va respecter ce que vous nous dites. Donc ça, c'est vraiment un beau projet aussi que la COVID a amené.
Vraiment. En tout cas, on peut dire plein de choses plates, puis effectivement, il est arrivé plein de choses plates, mais on peut quand même focusser sur le beau là-dedans pour avancer. Donc, je pense qu'on peut peut-être se lancer, justement, il y a une couple de sujets qu'on veut aborder ensemble. Donc, premièrement, dans le fond, si on commence là, dans un premier temps, sur avant l'accouchement, donc la période de la grossesse, le premier sujet que moi, ben en tout cas, tu sais, je me suis un peu basée sur mon expérience, ce que j'ai vécu, ce que j'ai traversé, puis les questionnements qui m'ont traversé l'esprit. Je me dis que je ne suis pas un cas isolé, donc si je l'ai vécu comme ça, on doit être quelques-unes à le vivre comme ça. Donc, la première phase que moi j'ai vécue, c'est une phase d'acceptation. Mm-hmm. Puis je sais qu'on n'est pas tous comme ça, là. Évidemment, ça va toucher une partie des femmes, mais tu sais, d'accepter de bouger différemment, d'accepter de mettre la performance de côté, d'accepter. Est-ce que ça, concrètement, c'est quelque chose que des fois vous constatez auprès de votre clientèle, là, tu sais, de devoir moduler les attentes ou, encore une fois, peut-être que c'est moi qui est dans l'erreur puis que finalement, tu sais, il y a moyen de travailler pour faire en sorte que les attentes des clients soient rencontrées en termes de performance, je ne sais pas quoi. J'imagine que quand même pas tant que ça, là, mais qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à justement la gestion de la performance puis des entraînements là, quand on apprend qu'on est enceinte?
Bien, en fait, premièrement, je veux juste te dire que je compatis vraiment. Moi, mes grossesses, je suis extrêmement malade.
Ah ouais?
je suis à terre le premier trimestre. Je suis une patate, donc... ça m'a pris 3 grossesses, puis je pense pas que j'ai vraiment réussi à avoir du lâcher prise sur le fait que je ne vais pas être active et m'entraîner comme je voulais.
Ouais,
hein. On n'est pas seule, je compatis vraiment. J'étais vraiment malade durant mes premiers trimestres, puis j'étais frue tout le temps.
Ouais, c'est ça, c'est bien frustrant. On n'a pas le contrôle là-dessus. On voudrait tant. Mais on ne peut pas, puis les autres nous rappellent qu'on ne peut pas. Fait que ouais. C'est un peu tannant. Mais moi, écoute, je me plains, tu sais, je veux dire. J'ai trouvé ça difficile, mais je suis ultra chanceuse. Je n'ai pas de symptômes, fait que je te lève mon chapeau d'avoir eu 3 enfants avec des grossesses difficiles comme ça, là, vraiment.
Mais c'est correct, tu sais, c'est bien correct que ça passe au deuxième trimestre, mais moi, en fait, c'est ça, je savais, puis c'est ça qui va peut-être intéresser, je savais ce que je pouvais faire, jusqu'où je pouvais pousser, mais mon corps ne voulait pas. Fait que tu vois, c'est un petit peu différent de ta situation. La chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des recommandations face à l'activité physique, des recommandations canadiennes qui sont toutes récentes. C'est super intéressant, mais ces recommandations-là, ça va proposer tout ce qui est optimal pour bénéficier, en fait, pour avoir les bienfaits. Fait qu'une fille qui est active comme toi, probablement qui faisait suffisamment d'activité physique et plus, ce qui est parfait. Donc, on parle d'un minimum de 150 minutes d'activité physique par semaine. Donc, une femme qui fait 150 minutes d'activité physique par semaine, au moins d'intensité modérée, va avoir plein de bienfaits en lien avec le fœtus. Il y a des contre-indications. Et contre-indication au niveau du fœtus, il va y avoir d'abord tout ce qui va être sport d'impact, risque de chute, parce qu'on veut éviter des décollements placentaires. Donc, c'est logique. On va oublier là, tout ce qui est le hockey, même que ce soit le basketball. Bon. Après ça, il y a au niveau de l'intensité pour le fœtus, et là, c'est là que ça va quand même t'intéresser. On est en train vraiment de remettre en question à quelle intensité on peut aller quand on est enceinte avant qu'il y ait un impact sur le fœtus. Donc, il y avait une étude qui avait été faite avec des athlètes, des olympiennes. Puis, on avait vu que si Elles allaient au-delà de 90 % de la fréquence cardiaque maximale, chose qui est extrêmement difficile à atteindre.
Ouais, et en même temps, j'étais comme 90 %, ouais.
Ça devient une athlète là, pour être capable justement d'atteindre ces pourcentages-là et de les maintenir. Donc, c'est, la population des femmes en général ne vont jamais atteindre ce niveau-là. Et là, on constatait que l'influx sanguin diminuait à la hâte au niveau ombilical, l'artère ombilicale, donc au niveau de l'utérus. Okay. Quand elles arrêtaient, tout revenait à la normale. Donc, ce qu'on dit, les recommandations, c'est pour avoir les bienfaits, il faut que vous fassiez ce minimum-là, 150 minutes d'activité physique à intensité modérée. Mais on ne sait pas vraiment que si on va un petit peu au-delà de ça, est-ce que vraiment ça crée des problèmes pour le développement du fœtus? C'est quand même discutable.
Ouais, il y a des études... en cas de doute, on préfère s'abstenir aussi.
Exactement. Là, après ça, c'est sa gestion du risque. Mais on va s'entendre qu'il y a quand même des femmes, des Olympiennes qui s'entraînent... Moi, j'ai moi-même participé à une étude. Les femmes qui faisaient beaucoup d'activité physique, est-ce qu'elles faisaient des bébés plus petits? Puis non, finalement. Donc, il ne faut pas tomber dans la peur. Parce que justement, pour atteindre un niveau très intense, il faudrait vraiment se pousser. Donc, c'est quoi l'intensité modérée? On va dire sur une échelle de 0 à 10, mettons que c'est 5, 6, 7, on va aller chercher au niveau de l'intensité modérée. Mais le plus facile, c'est le talk test. Donc, quand on fait notre activité physique, on veut avoir un essoufflement, mais quand même être capable de parler.
OK.
Marie. Donc, ça, c'est la recommandation. Mais encore une fois, je vais juste vous donner un exemple. Moi, je fais du ski de fond, skate. J'ai toujours accouché au même moment au printemps, donc j'ai toujours fait du ski de fond durant mes grossesses. Monter une côte en ski de fond, skate, là, quand moi, je suis encore une pro, en haut de la côte, là, j'étais pliée en deux, la tête appuyée sur mon bâton, puis tu sais, j'hyperventilais un petit peu, mais tu sais, le temps que je reprenne mon souffle, j'ai jamais pensé dans ma tête que j'allais nuire à mon fœtus.
Non, c'est clair. Ben, je l'ai fait un peu aussi, moi, quand en début de grossesse, puis là, tu vas me dire, il y a deux parties à ce sport-là. Mais en début de grossesse, j'ai fait du vélo de montagne.
Oui.
Évidemment, monter est plus exigeant en termes cardiovasculaires. Fait que je savais que j'étais limite, mais j'y allais plus mollo, puis j'y allais avec mon chum. Fait que lui, il nous ralentissait. Puis en descente, j'étais extrêmement prudente, mais j'y allais en début de grossesse, donc je n'avais pas nécessairement de ventre. Tu sais, je me disais, si jamais je tombe, je me protège, tu sais, je te protège avec tes doigts et tout. Là. C'est sûr qu'il y avait quand même un risque aussi de chute à ce niveau-là, j'en suis consciente. Mais c'est ça.
Mais c'est sa propre gestion du risque. J'ai une bonne amie qui est médecin, qui est au courant de tout ça. Mm-hmm. Elle a fait du vélo de montagne jusqu'à 8 mois. Pour elle, c'est un prolongement d'elle, comme le ski alpin. Tu sais, moi, je dis souvent, il faut juste être consciente des risques. Tu sais, le ski alpin, même si tu as fait de la compétition au niveau, ben peut-être que l'enfant de 2 ans, pas lui encore. Donc, ça se peut qu'il te rentre dans les genoux ou que tu attrapes une plaque de glace. Donc, c'est vraiment une propre question de ces risques. C'est important que les femmes soient informées. Après ça, tu sais, ça leur appartient. Donc là, ça, c'est au niveau du fœtus, c'est principalement ça. Après ça, il y a au niveau, quand on choisit l'activité physique, ça va être par rapport aussi à la santé de la femme. Donc, on veut pas non plus, tu sais, on veut aller chercher un entraînement qui va être fonctionnel et pas un entraînement qui va nécessairement nuire finalement à la santé des muscles de la femme ou à son plancher pelvien et tout ça.
Oui, attends, j'ai une question dans le fond. Oui. Quand tu dis côté fœtus, c'est ça, est-ce que dans le fond, on est en train de dire que côté développement du fœtus, la seule chose à laquelle on doit, les seules choses qu'on doit surtout porter attention, c'est intensité, mais ça reste justement un peu controversé, en fait, à suivre. Puis le risque de chute, à part ça, on tombe vraiment dans l'impact sur le corps de la femme?
Oui, sinon, il y a aussi les grandes altitudes, puis aller aussi sous l'eau. Trop en profondeur aussi, ça peut amener des risques au niveau de la pression. Mais sinon, il n'y a pas vraiment... les autres contre-indications, ça va vraiment être plus, mettons, des femmes qui ont eu beaucoup de fausses couches, qui ont eu des expériences prématurées, des femmes qui ont eu des troubles alimentaires non contrôlés, des femmes qui font de l'hyperpression, des maladies métaboliques. Donc, après ça, ça va plus être des conditions de santé. Mais par rapport à l'entraînement physique comme tel, ça serait ça un peu les contre-indications. Donc, au niveau de compétition, souvent ce qu'on dit, c'est une des recommandations aussi, les femmes qui sont compétitives ne devraient pas aller dans un volet compétitif lorsqu'elles sont enceintes. Parce qu'on s'entend, moi-même, je fais de la course, Par exemple, à ma troisième grossesse, j'ai participé aux 28 km à Ricana. J'étais déjà inscrite, je m'étais entraînée pour ça, j'avais fait d'autres courses durant mon été, donc clairement, j'étais en forme. Mon cœur était capable de soutenir quand même un rythme, mais je suis partie, j'ai fait cette course-là en me disant « Ah, crime! » Je viserai pas un top 15 ou un top 10. Je vais comme faire ma course. Je vais arrêter à chaque ravito. Je vais jaser avec le monde. Tu sais, je vais vivre cette expérience-là dans un but participatif. Mm-hmm. Donc là, après ça, ça dépend de la forme physique de chacun. Quelqu'un qui a jamais couru de sa vie, il n'aura pas participé à un 28 km de la grossesse. On s'entend?
Enceinte. Histoire de mettre toutes les chances de son côté pour apprécier l'expérience.
Ouais. Donc, mettons, ayons du jugement.
Ouais.
Mais, il faut comprendre que la femme qui a une résistance à l'acide lactique parce que c'est une athlète olympique, une femme que son pouls au repos est vraiment bas puis qui est capable d'atteindre des fréquences cardiaques très hautes quand elle n'est pas enceinte, bien entendu, elle, enceinte, son intensité va pouvoir être plus haute que bien des gens. Mais en même temps, si elle se fie à l'échelle de perception d'effort de Borg puis au talk test, bien, c'est juste qu'elle va courir très vite avant d'avoir ce léger essoufflement-là puis d'être incapable, tu sais, de parler ou quoi que ce soit. Donc, ça reste vraiment très personnel là, ou vraiment unique à chacune.
Mm-hmm. Puis il ne faut pas tomber dans le jugement aussi, tu sais, de soi, mais des autres aussi. Là, tu sais, il y a toujours une crainte aussi de se faire juger par les autres. Là. Dans le fond, tantôt justement, tu parlais de ton ami médecin, 8 mois, vélo de montagne, tu sais, je suis convaincue qu'elle se faisait regarder, puis il y a des gens qui se permettaient de juger, justement.
Oui, puis en fait, tu sais, ce qui est important, je pense aussi, on dirait que le corps de la femme enceinte appartient à tout le monde à part à elle.
Oui. Je le dis pas trop, moi, en pandémie, mais tout le monde met ça.
L'éducation de l'enfant aussi regarde tout le monde tout d'un coup, là, tu sais.
Oui, oui, oui.
Mais je pense que moi, des fois, je fais mon rôle quand je vois là, quelqu'un va faire la promotion d'anti-recommandation, si je peux dire. Là.
Ouais.
Des fois, comme professionnelle de la santé, je vais juste mettre un petit commentaire en disant, tu sais, c'est important quand même de mentionner qu'il y a un risque dans cette. Parce que c'est aussi de ne pas tomber dans un ou dans l'autre. Il ne faut pas non plus dire wow, t'es donc bien cool d'avoir fait du montagne ou voyons, t'es donc bien folle d'avoir fait du vélo de montagne. Tu sais. Mm-hmm. À quelque part, il faut comme se poser la question pourquoi elle a fait du vélo de montagne. OK, elle est peut-être au courant, puis elle a décidé de continuer parce qu'elle se sent en confiance sur son vélo de montagne. Tu sais.
Ouais. Mm-hmm.
Ça lui appartient après ça, puis elle était prête à assumer les risques. Donc, tu sais, c'est ça appartient à tout le monde. Là, ensuite, santé de la femme. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Ce qui m'a vraiment intéressée, en fait, c'est de dire, OK, comment on peut faire pour que le corps s'adapte à la grossesse, qu'on puisse continuer d'être active, mais qu'on fasse les bons choix pour respecter le corps, mais c'est surtout aussi comment on va s'entraîner durant la grossesse vont avoir un impact dans la rééducation postnatale.
Ouais.
Ça, c'est sûr. Nous, on le voit. Les femmes qui sont actives durant la grossesse, ils ont une bien meilleure rééducation. Et les mamans qui ont été alitées durant leur grossesse, mais ça prend plus de temps, c'est normal, tu sais.
Le corps il a subi les effets de la sédentarité là, au fil
du... Exactement. Puis l'atrophie musculaire vient assez rapidement. Donc, au niveau du corps de la femme, on s'entend que les muscles sont mis sous le stress. Ce sont les muscles du plancher pelvien et ce sont les muscles des abdominaux. Donc, c'est surtout les abdominaux, en fait, durant la grossesse qui sont beaucoup étirés. Donc, on veut permettre aux muscles abdominaux d'être étirés. Donc, pardon, c'est pas un moment pour décider durant la grossesse qu'on renforcit notre six-pack et notre grand droit. Parce que nos muscles, on veut qu'ils soient souples, en santé et qu'ils puissent s'étirer. Donc, c'est une des raisons pourquoi on commencera pas à faire des crunchs. C'est aussi pour protéger la ligne blanche, pour éviter qu'il y ait une trop grosse diastase. Donc, notre structure abdominale, elle est mise sous tension. Les abdominaux peuvent être étirés de 15 cm. Donc, c'est important de travailler notre musculature profonde, notre transverse, pour justement maintenir en place les organes, le squelette. Les muscles du plancher pelvien, les muscles du plancher pelvien, il faut comprendre, encore une fois, c'est unique à chaque femme. Donc, il y a des femmes qui, avant de tomber enceinte, avaient des muscles du plancher pelvien hypotoniques,
mm-hmm.
d'autres hypertoniques et d'autres en santé. Donc, je vais venir comme, je vais aller straight to the point. On va parler de course à pied. On va parler de course à pied parce que c'est toujours la question qui revient. Est-ce que je peux courir ou non? Bon. Alors, maintenant, si on met de côté tous les ressentis négatifs qu'on peut avoir durant la grossesse, par exemple, moi, je ne pouvais pas courir enceinte, ça me tirait au niveau ligamentaire. Bon, c'est sûr que si vous avez des douleurs, tu sais, si une femme a des douleurs, quand elle court et elle est enceinte, bien là, on va changer de sport, d'activité.
Évidemment. Est-ce que tu parles, quand tu dis « moi, je ne pouvais pas », est-ce que tu parles de toi ou tu donnes un exemple comme ça? Là?
Moi, je ne pouvais pas. Moi, là, ça me tirait là, au niveau ligamentaire.
Évidemment, je te tirais par curiosité.
Sous le ventre.
OK, OK. Ah ouais.
C'était vraiment sous le ventre, c'était super inconfortable. Je me sentais... Non, enfin, mais j'étais chanceuse. J'étais dans les saisons de ski, moi, enceinte. Je pouvais faire de la randonnée, tout ça, mais la course, c'était... Puis je faisais de la natation, tu sais, j'ai juste comme fait d'autres choses. Mm-hmm. Mais c'est ça, la course comme telle, ça va mettre les articulations. C'est sûr que les articulations, ils ont plus de poids à traîner qu'à l'habitude en un court laps de temps. Et il y a des femmes qui sont très sujettes à être sensibles aux hormones de grossesse, donc leurs articulations deviennent plus... instable qu'à l'habitude. Donc, parfois, il va y avoir des douleurs au niveau des articulations du bas du corps. Et il y a des... Oui, ça va créer un impact un petit peu au niveau du plancher pelvien. Donc, c'est normal, mais ce n'est pas la course qui va affaiblir le plancher pelvien, mais va mettre en lumière peut-être une petite faiblesse au niveau du plancher pelvien. Donc, les muscles du plancher pelvien qui soutiennent les organes, qui font en sorte qu'on n'a pas de fuite en, je veux dire, squeezant un peu l'urètre et tout ça, bien, s'ils sont suffisamment forts, puis qu'il y a une femme qui courait tout le temps, fait de la course, continue sa course à pied, adapte ses sorties de course, c'est-à-dire que, tu sais, elle va marcher une fois de temps en temps, peut-être elle va courir moins longtemps, elle va diminuer l'intensité de ses intervalles, et qu'elle n'a pas de fuite, elle n'a pas de douleur, n'a pas de lourdeur, n'a pas d'inconfort, bien, ça veut dire que les muscles stabilisateurs de son bassin sont probablement suffisamment forts pour ce qu'on leur demande de supporter, finalement.
Mm-hmm. C'est vraiment intéressant parce que, écoute, je rapporte souvent à moi, mais je suis mon propre exemple. Que, dans le fond, avant ma grossesse, moi, je sautais à la corde à danser, puis ça me donnait vraiment envie de pipi. Là. Oui. Et tout le monde me disait tout le temps, aïe, toi, ça va être fou la grossesse. Puis là, je cours. J'avouerais que souvent, ce qui m'arrête, c'est comme, OK, là, j'ai envie de pipi. Oui. Fait que, mettons, rendu à, tu sais, je peux pas vraiment dépasser 7 km, là, à moins d'avoir une pause pipi quelque part.
Oui.
Puis, mais en même temps, j'ai l'impression que pour moi, ça peut être peut-être une manière de les travailler aussi.
Parce que premièrement, la course et la corde à danser, c'est deux choses complètement différentes au niveau de l'impact sur le plancher pelvien.
Intéressant, oui.
La corde à danser, c'est un mouvement 100% vertical.
Ouais.
Donc, il y a vraiment une force d'impact au niveau du plancher pelvien qui est beaucoup plus grande qu'à la course où c'est un sport qui est linéaire. On avance quand on court. Donc, ça ne met, au niveau des études, ce n'est même pas considéré comme un sport à grand impact, la course à pied. Alors qu'on veut tellement, mettons, sortir d'un... sauter d'un box... Tu sais, d'une boîte, mettons, en crossfit, par le saut à la corde. Ça, ça va vraiment augmenter la pression intra-abdominale qui va augmenter la pression sur le plancher pelvien. En plus, avec la trampoline, par exemple, le mouvement de monter et de redescendre. Par contre, la course à pied, ça va être vraiment linéaire. Donc, tu ressens l'envie d'aller aux toilettes, c'est normal aussi parce que juste ce petit mouvement-là, ben, tu sais, ça appuie sur la vessie aussi. Donc, tu sais, tu fais la bonne chose, c'est-à-dire que tu vas t'écouter. Ce qu'on dit, c'est, tu sais, pour bénéficier, en fait, de tous les bienfaits, de peut-être sortir plus souvent, moins longtemps. Mm-hmm. Puis, tu as tout à fait raison, ça fait partie d'un entraînement du plancher pelvien. En fait, tous les muscles et les articulations du corps, comment ça fonctionne, c'est qu'ils ont un seuil de tolérance, OK, par rapport à leur structure, la force, leur composition ligamentaire, l'expérience et tout ça. Donc, un seuil de tolérance. À toutes les fois qu'on veut améliorer un seuil de tolérance d'un tissu, donc, par exemple, on veut courir un marathon, mais on a mal au genou. Comment qu'on peut faire? Bien, on va vraiment y aller progressivement pour doucement repousser ce seuil de tolérance-là, Donc, donner un stress qui est dosé pour que le corps puisse se moduler et le seuil de tolérance va être repoussé, repoussé, repoussé. Donc, si tu cours, tu n'as pas de fit, pas de douleur, pas de lourdeur, oui, ça fait partie d'un entraînement. Et si tu vas un petit peu au-delà du seuil de tolérance de ton plancher pelvien, bien, à ce moment-là, peut-être que tu vas sentir justement ces impacts-là qui vont te donner un feedback en te disant « Oups, je suis allée un petit peu trop loin pour ce que mon plancher pelvien est capable de prendre, finalement. Okay. » Ce qu'il faut faire attention, par contre, c'est qu'il faut faire des exercices enceintes de plancher pelvien parce qu'on veut s'assurer aussi que ces muscles-là sont capables de se contracter et de se relâcher. Okay. Et il peut arriver des fois chez des grandes sportives où les muscles du plancher pelvien sont toujours, toujours contractés. Et c'est pas parce qu'ils sont toujours contractés qu'ils sont forts nécessairement. Puis ça peut devenir problématique en période postnatale. Donc, mais ce que tu fais, là, courir, t'écouter, faire tes pauses pipi, si tu n'as pas de symptômes, si tu me disais, ah, j'ai des fuites tout le temps, mais tu sais, je fais plus de ça, là, je te dirais, oups, ça démontre que tu en demandes trop pour ce que ton plancher pelvien est capable de faire présentement.
OK, intéressant. Donc, plancher pelvien, abdominaux, il faut les travailler adéquatement. Dans le fond, abdominaux, justement, tu disais, pour revenir un petit peu, là, je fais du coq à l'âne, excuse-moi si je te déstabilise un peu dans ce que tu es en train de dire, mais j'essaie un peu de rapper. Dans le fond, les abdominaux, c'est ça, tu disais que faut faire attention pour ne pas les renforcer. Par contre, tu disais qu'il fallait aller quand même renforcer tout ce qui était plus abdos profonds. Fait que dans le fond, ce qu'on peut en comprendre, c'est qu'on peut faire des abdominaux, mais il faut faire les bons abdominaux. Fait qu'il ne faut pas se lancer un peu comme ça, freestyle, justement. Je vais faire des crunchs, il faut savoir ce qu'on fait, c'est ça?
En fait, ce qu'on recherche, c'est un équilibre musculaire. Mm-hmm. C'est vraiment un équilibre musculaire. Donc, on veut avoir des abdominaux qui sont forts. Donc, en fait, on veut peut-être renforcer ou maintenir une force des abdominaux. Donc, en fait, quand, par exemple, je fais un épaulé jeté ou un shoulder press par-dessus la tête, ça demande de la force au niveau des abdominaux. Durant la grossesse, on peut voir parfois que si on engage mal nos abdominaux profonds, il y a une petite pyramide qui s'installe au centre de notre corps. Donc, vraiment au centre de notre tronc, entre notre pubis et notre sternum. C'est là qu'il y a la ligne blanche. Et des fois, quand on force ou quand on va faire, par exemple, justement, un redressement assis, on va voir qu'il va avoir une petite pyramide. Donc, c'est la ligne blanche qui est repoussée vers l'extérieur, puis on appelle ça du doming. Donc, ça fait un genre de petit dôme dans le milieu. Ça, c'est un bon signe pour se dire, « Oups, je suis pas en train de travailler adéquatement mes abdominaux. » Ce qu'on recherche, en fait, ce sont des exercices qui vont respecter la ligne blanche, qui vont contrôler la pression intra-abdominale. Là, c'est un peu précis, là, comme ça, justement, en parler en podcast. On en parle beaucoup dans nos cours, mais la pression intra-abdominale, en fait, c'est à toutes les fois qu'on fait un exercice intense, ça augmente la pression à l'intérieur de notre abdomen. Donc, cette pression-là, elle est répartie à différents endroits. Donc, c'est sûr que durant la grossesse et en période postnatale, bien, peut-être que le plancher pelvien est plus fatigué, mais surtout aussi au niveau du centre de nos abdominaux, notre ligne blanche, elle se fait étirer durant la grossesse. Donc, oups, ça va pousser justement au niveau de cette ligne blanche-là, puis ça va faire ce doming-là. Donc, ça va être important d'essayer d'éviter que ça se produise et de contrôler la pression intra-abdominale. Fait que concrètement, là, des petits trucs, on va toujours vouloir expirer quand on fait des exercices, soit avec des poids ou soit quand on fait des exercices d'abdominaux. On veut s'assurer qu'on soit capable de garder notre gainage, donc de garder une tension dans notre ligne blanche. Puis ça, bien, on est capable de le faire en activant notre transverse. Puis on active notre transverse quand on est enceinte, en fait, c'est comme l'idée qu'on voulait se jacker la bedaine. Donc, on veut venir aplatir un peu le bas du ventre sous la bedaine et ramener le bas du ventre vers soi. Donc, c'est pas juste ramener le nombril, là, c'est vraiment comme soulever le ventre et le ramener vers soi. Et là, on active notre muscle transverse qui est comme un corset qui vient vraiment là stabiliser nos abdominaux, mettre une belle tension dans notre ligne blanche. Donc, il y a des exercices comme le dead bug, tu sais, des exercices un petit peu plus sur le dos et qui vont être vraiment pertinents à faire, qui vont travailler, oui, nos obliques, mais tu sais, ça va être plus facile d'engager nos muscles profonds. C'est sûr que faire de la planche, qui a une très grande demande abdominale, beaucoup de demandes au niveau des grands droits, c'est presque sûr qu'éventuellement, il va avoir un doming parce que ça va juste être trop intense. La pression va juste être trop grande pour le transverse. Donc, ça, nous, tu sais, c'est sûr que nous, c'est notre spécialité. Fait que c'est sûr que là, dire par podcast quel exercice faire et ne pas faire, souvent, souvent, c'est pas juste quel exercice faire et ne pas faire, c'est comment,
c'est comment
faire.
Tu me fais réaliser à quel point, justement, ça vaut la peine d'aller chercher des professionnels parce que, tu sais, moi, je m'entraîne depuis longtemps, mais des fois, mettons, je me disais, ah, bon, exemple, un crunch, c'est dans ma tête, je voyais ça, c'est logique que ça serait peut-être pas la meilleure idée. Puis là, j'étais comme, bah, une planche, me semble, c'est plus stable, puis tout. Puis là, dans le fond, je connais pas la mécanique derrière. Fait que clairement, ça vaut tellement la peine là, d'aller chercher la juste information. Puis des fois, on a peut-être justement une petite inquiétude. On parlait d'entrée de jeu là, de la performance puis tout. T'sais. Je t'avoue que moi, j'avais un petit jugement dans comment ça va être trop relax.
Oui. Mais souvent, il y a beaucoup de monde qui a ce jugement-là. Puis pourtant, quand on regarde toute notre équipe de kin, on est toutes des filles qui font ultra sportives, des triathlètes, des filles qui font du ski de rando, du vélo de montagne. C'est ça, moi, je commence à faire des ultra-trails. Tout ça. On est toutes des filles performantes. Fait que c'est drôle parce que c'est pour ça que je suis partie bouger parce que j'ai l'impression que l'offre pour les cours de cours pour femmes enceintes, c'était beaucoup « je me flatte la bedaine », tu sais.
Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment le fun, pour vrai. Je suis contente de parler avec toi parce que c'est une belle découverte pour moi, honnêtement. Puis, ouais, vraiment, vraiment intéressant. OK. Puis, fait que là, on a parlé du plancher pelvien. On a parlé des abdominaux pour le corps de la femme. Puis, si jamais je t'ai coupé trop court, puis il y a des choses que tu aurais voulu ajouter là-dessus, sois bien à l'aise. Côté corps de la femme en tant que grossesse, y a-t-il autre chose qu'on doit surveiller? Bien évidemment, on a parlé du fort impact, là, puis tout. Est-ce qu'il y a autre chose?
En fait, tu sais, on parle d'exercices souvent d'abdominaux et tout ça, mais il faut comprendre que nos abdominaux sont demandés dans plein de mouvements. Ouais. Donc, c'est aussi juste l'entraînement en salle, puis on se fait tellement. Demander, tu sais, le CrossFit, par exemple, c'est vraiment un bel exemple. Que d'un sport qui doit tellement être adapté pour la femme enceinte parce que l'objectif, quand on va dans un gym de CrossFit qui est quand même axé sur la performance, il y a un programme en avant et le but, c'est de faire le maximum de répétitions ou de lever le maximum de charge. Et on ne s'occupe pas de comment le corps va réagir à ça et souvent, une méthode pour lever des charges plus lourdes va être de bloquer la respiration. Donc, si j'inspire, je gonfle mes poumons, mon ventre se gonfle, je retiens mon souffle et je force. La pression intra-abdominale, là, elle est ultra grande. Là. C'est comme si je soufflais une balloune, je la gonflais à son maximum. On s'entend que quand je vais la lâcher, elle va partir vraiment vite. Donc, ce qui permet, justement, comme méthode au niveau du CrossFit, d'être vraiment plus fort, c'est pas quelque chose qui respecte notre musculature profonde. Donc, la femme enceinte, il va falloir qu'elle diminue ses poids, qu'elle observe sa posture, qu'elle contracte son plancher pelvien transverse lorsqu'elle force, qu'elle s'assure qu'elle n'a pas de fuite, de douleur, de lourdeur. C'est ça qu'elle expire à toutes les fois qu'elle force et ne retienne jamais son souffle. Donc, ça, c'est un sport. Des fois, on se dit, oui, faire les bons exercices d'abdominaux, mais il y a aussi d'autres activités qui demandent un très gros travail au niveau abdominal, puis qu'on doit absolument adapter.
Mais je trouve ça intéressant parce qu'encore une fois, tu dis, tu es en train de nous démontrer comment adapter le CrossFit. C'est sûr que on s'éloigne un peu temporairement de la philosophie du CrossFit, justement, qui est un peu toujours dans le 100%. Mais encore là, c'était dans l'adaptation et non dans la restriction pure. Fait que,
oui, puis ce qu'on veut, en fait, c'est que la femme, si c'est son sport, le CrossFit, on veut la ramener le plus rapidement possible après, sans séquelles. Tu sais, c'est ça, finalement, même chose, mettons, au niveau de la course. vaut mieux adapter et être sage durant la grossesse ou postnatal immédiat pour pouvoir repartir et ne pas revenir en arrière.
Mm-hmm. C'est parce que la crainte aussi, là, c'est de, ouais, de perdre un peu ce qu'on a gagné au fil du temps. Là.
Fait que... Écoute, si ça peut te consoler, là, moi j'ai 3 filles et je fais mes meilleures performances à ce jour.
Ah, cool. Parfait. Fait que, est-ce que ça clôt un peu le dossier grossesse? Ben, je sais, là, écoute, je dis ça à une fille qui travaille là-dedans depuis des années. Je suis convaincue qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Est-ce qu'il y a quelque chose de pertinent qu'on ne peut pas passer à côté, là, qu'on aimerait mentionner?
Bien, je vais juste dire, en fait, que je le sais que c'est difficile des fois dans le premier trimestre. C'est pour ça aussi qu'on est là. En fait, on parle beaucoup de performance là, présentement, mais la majorité des femmes enceintes ne s'entraînent pas suffisamment. Donc, ouais, dans le fond, on n'a pas nécessairement un problème de société où les femmes enceintes s'entraînent trop. On a plus un problème où les femmes enceintes ne s'entraînent pas assez. Donc, d'aller chercher de l'aide, des outils, parce que c'est fou l'impact que ça peut avoir sur sa santé, la santé de son enfant et les répercussions à moyen et long terme et aussi au niveau psychologique. Donc, ça peut diminuer de 67% les symptômes de dépression prénatale, activité physique. Fait que, tu sais, c'est aussi de pas voir l'activité physique durant la grossesse comme juste outil, la possibilité de faire la performance, mais tu sais, trouver une manière d'être active, je pense que c'est vraiment aussi important de motiver justement les femmes que même si elles n'ont jamais été actives durant la grossesse, ça c'est bon que je le dise parce que c'est un autre mythe.
Oui, je m'en venais là, tu avais suscité une question, parle-en.
Oui, mais en fait, c'est ça, c'est super intéressant parce qu'il y a presque, on est en train de tout détruire les mythes qui disent qu'une femme ne pourrait pas être active durant la grossesse. Donc, au début, on disait, mettons, bon, OK, si tu faisais du sport, ça a commencé comme ça. Ouais. Celle qui pouvait être active durant la grossesse, c'était juste celle qui était en forme avant, tu sais.
Ouais.
Ça n'a pas de sens.
Là, après ça, si tu en faisais, tu peux continuer, mais ce n'est pas un bon moment pour commencer. Mais moi, ouais, globalement, c'est encore ce que j'entends. Là,
je te dis. Mais ça n'a pas de sens.
Ouais.
Après ça, ce qu'on a commencé à dire, c'est justement, OK, si tu étais pas très active, tu peux quand même continuer d'être active. Si tu n'es pas active, tu peux commencer à être active, mais de manière progressive et accompagner d'un professionnel. Ben, tu sais, premièrement, pas besoin d'avoir un professionnel pour commencer à faire des marches, là. Tu sais, ou je veux dire marcher.
Ouais.
Et maintenant, si tu es sédentaire, si tu fais du diabète gestationnel, si tu as des problèmes de santé, si tu as des troubles alimentaires, si tu as de la haute pression, en fait, on est en train de détruire tous les mythes et on est en train vraiment de réduire au minimum quelle est la femme qui ne pourrait pas faire d'activité durant la grossesse. Et il y en a tellement peu, puis elles vont souvent se retrouver à grossesse à risque finalement. Ouais. Mais sinon, une femme qui a une obésité morbide, mais qui est enceinte et, tu sais, soudainement, elle a... mais pas soudainement, là, mais là, il y a là comme elle voudrait vraiment faire un changement, là, la motivation de son bébé et tout ça, ben, il n'y a pas de contre-indication. Il va juste falloir que ce soit progressif. Il va juste falloir que ce soit progressif et encadré, idéalement par une équipe professionnelle. Mais pas du tout, là, ça n'a pas de bon sens. En fait, tu sais, les recommandations de 150 minutes d'activité physique, ce sont les mêmes pour toute la population.
Oui. Mm-hmm. Puis d'ailleurs, tu sais, quelque chose qu'on voit beaucoup en nutrition puis qui s'applique 100% à l'activité physique aussi, c'est que la grossesse d'une femme, ça soulève une belle fenêtre d'opportunité pour un changement favorable aux saines habitudes de vie.
Tout à fait.
Que quelqu'un qui n'avait pas nécessairement des bonnes habitudes, soudainement, le fait d'avoir quelqu'un d'autre sous sa charge dans son propre corps a un intérêt grandissant pour le bien-être, bien manger, vu prendre soin de son corps. Fait qu'à côté nutritionnel, nous, on voit souvent des nouveaux clients qui sont comme « ouais, je trouve que je mange pas bien, puis là maintenant, tu sais, je veux faire attention parce que ça dépend plus juste de moi, mais l'activité physique, c'est exactement la même chose. » Fait que profitons de cette belle fenêtre d'opportunité. Là,
oui, puis tu sais, le diabète gestationnel, en fait, c'est la combinaison d'une saine alimentation pour pouvoir le contrôler, puis de l'activité physique, tu sais. Ouais, je veux dire, quand on va se rendre compte que tu vas être d'accord avec moi, mais... C'est juste avec la COVID aussi, moi, ça m'a vraiment fâchée, là, en fait, que on n'a pas considéré, je trouve, l'activité physique à sa juste valeur, à son importance. J'ai compris que, clairement, on ne croit pas au pouvoir de l'activité physique dans notre société présentement. Et le rôle des kinésiologues, on nous a mis, nous autres, tout le monde dans le même bassin, les kinésiologues, les coachs, tu sais, en tout cas. Mm-hmm. Mais, je veux dire, ça a un pouvoir incroyable. En fait, si tout le monde mettait l'effort, on aurait un peu plan santé, tu sais.
Ouais, vraiment, je suis tellement d'accord. Fait que, écoute, là, j'avais prévu parler un petit peu d'alimentation au travers de tout ça. Parce que je sais que je suis déjà un peu dans un sujet niché en parlant de grossesse et de maternité. Mais écoute, je vais m'auto-flusher parce que c'est trop intéressant ce qu'on jase. Puis on a assez de contenu clairement pour jaser pendant vraiment longtemps. Fait que ça va être vraiment à vous, à ceux qui m'écoutent finalement, de me dire si ça vous intéresse que je refasse un épisode connexe concernant alimentation en grossesse et en post-natalité. Si je vois qu'il y a de la demande, je vais le faire. Fait qu'on va s'adapter, mais je veux pas te voler là, de temps. C'est trop intéressant, on a trop de choses à dire.
Je parle trop, je pense.
Non, pas du tout, pas du tout. Tout est super intéressant, fait que c'est parfait. Fait qu'on va se concentrer sur l'activité physique. Puis, on peut peut-être justement parler maintenant de comment ça se passe, après, là, justement, l'accouchement. Donc là, on en a parlé un petit peu, tu sais, la reprise concrètement, comment qu'on voit ça. C'est sûr, là, encore une fois, comme ça l'est toujours en nutrition, j'imagine que c'est très personnalisé, c'est du cas par cas. On n'a pas tous les mêmes accouchements, la même récupération. Mais globalement, justement, tu sais, il y a des mythes qui entourent la reprise, comme on en parlait tantôt, là. Tu sais, moi, je me fais dire, attends-toi pas à reprendre rapidement, mais comment? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à vivre après l'accouchement?
Bon, bien, je vais juste comme revenir une petite chose en arrière. Il y a aussi l'activité physique, là, durant la grossesse. Premièrement, ça va aussi permettre de diminuer vraiment l'intensité au niveau des douleurs et des maux. Fait que ça, je veux le dire. Puis ça va aider à la préparation à l'accouchement. Fait que, tu sais, ouais. J'ai juste, là, on a comme skippé un peu l'accouchement, mais juste à dire, moi, je remarque que les femmes qui prennent le temps d'être actives durant la grossesse développent, c'est la même chose au niveau de l'alimentation, développent parfois une meilleure relation avec leur corps. Okay. Il y a plus d'acceptation aussi avec tous les changements physiologiques qui vont perdurer aussi en période postnatale. Donc, on sent aussi qu'on est plus forte. Notre corps, il nous aide à faire ce qu'on veut. Donc, il devient un peu plus comme notre partner que exclu un peu contre lui et de tous ces changements-là. Puis de développer cette relation-là et ces ressentis et cette intuition-là va clairement aider pour l'accouchement. T'sais, donc, il y a des femmes qui vont vivre un accouchement en conscience, qui vont avoir appris à développer des ressentis par rapport à leur corps, qui vont avoir fait du yoga pour trouver des outils pour se détendre, pour se relaxer. Souvent, ça va aider à vivre un bel accouchement en douceur, dans l'acceptation et tout ça. Là, ensuite, bien entendu, tous les accouchements sont différents. L'âge de la femme est différente. Son activité avant la grossesse, c'est à différents niveaux. Ensuite, combien de grossesses et d'accouchements elle a eu, si c'est un accouchement vaginal ou un accouchement par césarienne. Donc, est-ce que l'accouchement, il y a eu des déchirures? Est-ce que bébé était très gros? Est-ce que la maman, elle a poussé et terminé en césarienne? Ou finalement, est-ce que c'était un accouchement tout en douceur dans l'eau? Donc, il y a une chose qui est certaine, par exemple, c'est qu'il y a des muscles, peu importe l'accouchement, qui ont vécu un grand stress.
Ouais,
et moi, souvent, je dis, j'en ai parlé au tout début, mais je donne vraiment l'analogie où les muscles des abdominaux, durant la grossesse, ont été foulés un petit peu. Et là, le plancher pelvien, si c'est un accouchement vaginal, est foulé. Si c'est une césarienne, les abdos sont foulés encore plus et à différents degrés. Donc, une foulure, on peut avoir... C'est ça, on peut avoir un grade 1, 2, 3, 4, donc selon comment ça s'est déroulé. Il y a des femmes qui vont peut-être avoir eu à peine de déchirure, il y en a d'autres qui vont avoir eu de déchirure grade 4, donc la guérison ne prendra pas autant de temps finalement.
Avant de te laisser poursuivre, j'ai juste une petite question justement. Mettons, concrètement, comment ça s'applique, vous, dans les cours? Est-ce que, mettons, c'est les mêmes cours qui sont offerts à tous, mais avec comme des adaptations selon, tu sais, où t'en es, ton stade, puis tout, ou il y a des cours vraiment, mettons, plus spécifiques?
Donc, en postnatal?
Oui.
Donc, nous, la raison d'être de mon entreprise, c'est le cours qui s'appelle « Premier pas de maman ». Et ce cours-là, c'était vraiment pour répondre, en fait, c'est vraiment là, ma mission. Là. Quand j'ai ouvert mon entreprise, je me suis dit, bon, c'est assez, là, le corps médical qui dit « on fait rien pendant 4 à 6 semaines », moi, je vais les prendre à partir de 2 semaines postnatales. Donc, à partir de 2 semaines, c'est un accouchement vaginal, 4 semaines, c'est un accouchement par césarienne, parce qu'on veut juste pas qu'elle traîne le bébé puis la coquille et tout ça. Elle vient en succursale où là, maintenant, on le fait en ligne. Puis, les premiers jours, donc, j'ai quand même déjà eu des mamans qui venaient à 5 jours, là, mais majoritairement, on leur dit, tu sais, prenez les deux premières semaines quand même pour installer l'allaitement si elles le veulent, une routine de bébé, juste comme les premiers bébés, ça demande quand même beaucoup, 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 beaucoup d'adaptation. Donc, de que l'inflammation diminue un petit peu. Durant la grossesse, on va parler de petits exercices de plancher pelvien à faire pendant ces 2 semaines-là. Puis là, elles viennent au cours, elles nous racontent chacune leur accouchement, on donne la théorie le plus possible, un peu ce dont on parle aujourd'hui, pour qu'elles comprennent les facteurs de risque, qu'elles soient conscientes de où elles se situent individuellement aujourd'hui. Donc, c'est leur point de départ dans leur rééducation et leur remise en forme, selon tous les facteurs de risque qu'elles ont eus. Donc, si je vais à un extrême, déchirure grade 4, un accouchement très éprouvant, un bébé, un allaitement qui est difficile à installer, la maman ne dort pas beaucoup, bien là, sa phase de rééducation, ça va être plus long. Donc, tu sais, en prendre conscience, c'est aussi se donner de la bienveillance puis dire, OK, je vais accepter ce qui est présentement puis je vais partir de là. Versus une maman, deuxième bébé, un accouchement qui a duré 4-5 heures, pas de déchirure, elle était super en forme jusqu'à la fin. Bien entendu, sa rééducation va aller plus rapidement. Une chose est certaine, c'est que tout le monde a eu un plancher pelvien qui a été stressé. Tout le monde a des hormones encore dans le système. Ces muscles-là sont plus étirés qu'à l'habitude. Donc, tout le monde a besoin d'une rééducation. Donc, le cours pour un peu de maman, c'est pas de la remise en forme, c'est de la rééducation. Donc, moi, j'appelle ça mon tronc commun. Tout le monde vient dans ce cours-là. On fait des exercices progressifs sur 8 semaines. On est formé. Donc, pour un exercice, on a 4 variantes. Tu sais, nous, on va corriger les mamans. On va leur parler comment savoir si elles font bien l'exercice. C'est ça le plus important. Puis, on va faire une progression dans les 8 semaines. Et c'est souvent par la suite, on va continuer avec d'autres cours. Puis, il y en a qui vont choisir justement prendre un chemin un peu plus rapide. Puis, d'autres vont faire un chemin un petit peu plus lent. Mais le cours premier pas de maman, c'est vraiment pour toutes les femmes qui viennent d'accoucher. C'est vraiment une rééducation postnatale immédiate, là, vraiment générale. Tous les exercices sont bons pour tout le monde, finalement.
OK. Puis là, ça soulève un questionnement. Bon, on parle beaucoup du poids, là, ben, depuis tout le temps, là, finalement, c'est pas nouveau. Au courant des dernières années, on a changé beaucoup le discours qui entourait la gestion pondérale. Je le sais, on peut pas passer à côté, puis, tu sais, j'en avais fait mention que je voulais en discuter avec toi. Je sais que les femmes post-accouchement se mettent une pression énorme aussi pour le retour au poids. Puis, tu sais, là, tu me parles justement le chemin là, de rééducation, plancher pelvien, c'est pas un cours de remise en forme. Est-ce qu'il y en a qui veulent, tu sais, aller trop vite, qui veulent, tu sais, qui pensent au poids, justement, mais il faut que je brûle des calories, puis tout. J'ai comme l'impression qu'on se met une pression énorme, puis que des fois, tu sais, le bébé vient d'accoucher, là, puis la femme, puis tu sais, je veux dire, je suis pas dans le jugement, là, je peux m'imaginer que ton corps a changé, puis que tu ressens quelque chose, mais comment vous abordez la thématique du poids? Est-ce que vous ressentez justement du stress ou bien de la colère ou de la tristesse, de l'incompréhension de la part des femmes? Comment vous gérez ça, le poids, vous?
En toute honnêteté, c'est assez rare qu'on parle de poids chez Boujotte.
Ah, j'aime ça!
En fait, quand on sent qu'il y a des mamans qui sont inquiètes, il y a deux choses qu'on dit. T'sais. On est comme, premièrement, on va prendre un peu de recul, puis on va voir comme combien de temps a duré la grossesse, puis c'est quoi le postnatal. Puis ce que je ramène aussi, c'est comme, écoutez les filles, si vous aviez des saines habitudes de vie et que vous étiez active avant, je veux dire, puis que là, en postnatal, vous avez encore des saines habitudes de vie et que vous êtes active, faites confiance à votre corps. Vous allez retourner à votre poids santé. Là, nous, on s'occupe de S'assurer que les structures soient en place, que vos abdominaux deviennent de plus en plus forts, que votre plancher pelvien soit fort. Puis souvent, je vais dire, moi, le cours de rééducation postnatale, c'est à côté de la remise en forme. Donc, en même temps qu'elles font le cours de rééducation qui est vraiment axé sur la musculature profonde, elles vont commencer à marcher des marches un petit peu plus longues, faire un peu de dénivelé, celles qui sont sportives, un peu plus de vélo stationnaire. Mais je dirais là, que celles qui sont sportives, ils ont hâte de bouger pour bouger. Ils n'ont pas nécessairement hâte de bouger en lien avec leur poids ou quoi que ce soit. Je pense qu'il y a beaucoup de craintes par rapport à l'apparence du ventre. Mm-hmm. Au-delà du poids, là, je pense que c'est beaucoup l'apparence du ventre et tout ça. T'sais. Puis, il y a des femmes qui allaitent qui vont... moi, en fait, là, j'ai une musculature à la base, j'ai une coureuse tout ça. En postnatal immédiat, mes deux dernières grossesses, j'ai fondu. T'sais, je veux dire, j'avais plus de muscles, je flottais dans mes jeans, là, puis je suis une fille qui a une musculature, là, mais t'sais, moi, ça m'a purgé, c'était pas mieux, je me sentais faible, t'sais, c'était vraiment plus exigeant. Donc, le corps va réagir aussi à ça, hein, de l'allaitement, aussi quand tu as plusieurs enfants, t'es rendu que tu manges tout le temps sur le coin de la table. Ça, c'est plus justement, c'est plus de tes.
C'est dans ma course.
C'est ça qu'on dit que maman, tu as le matin, je fais des blagues parce que mes filles sont comme « C'est moi qui étais assise à côté de maman! » Puis là, je suis tout le temps là. Non, de toute façon, maman, elle déjeune debout, là. J'ai pas le temps de m'asseoir le matin. Ouais, mais c'est ça, on parle vraiment, on essaie vraiment de les mettre dans l'action. Fait que tu sais, des années...
Tantôt, d'entrée de jeu, tu m'as fait réaliser que j'étais un peu biaisée dans la manière d'aborder le sujet, dans le sens que je pensais à la performance, mais qu'effectivement, pour la majorité des femmes, l'enjeu est plus de bouger que de limiter la performance. Puis, encore une fois, mettons qu'on revient à ce type de clientèle-là, j'imagine que vous devez quand même avoir des femmes qui arrivent justement 2-3 mois après l'accouchement, puis là, sont comme, hey, là, genre, faut que je perde du poids, est-ce que, dans le fond, vous... Ben, tu sais, je ne sais pas la relation que vous avez avec les clients, mais ça a l'air d'être quand même une très belle relation de proximité. Fait que, est-ce qu'elles s'inscrivent au cours, puis tu sais, le poids, on n'en fait pas de temps, tu sais, justement, on n'en jase pas tant, comme tu dis. Puis,
on n'en parle jamais.
Oui, c'est ça.
On ne va jamais, jamais faire une blague à ce niveau-là ou de dire qu'il va y avoir un objectif. Parce que de toute manière, si elles sont actives, tu sais, nous, notre but, là, c'est que même celles qui n'étaient pas actives, c'est que durant leur congé maternité, elles viennent chez Bougeotte. Et là, elles trippent sur le sport, qu'elles ont développé des nouvelles habitudes de vie puis qu'elles soient actives pour le reste de leur vie. On a beaucoup de femmes qui sont plus actives qu'elles l'étaient avant. En fait, c'est plus ça. Puis, finalement, elles finissent par avoir une relation qui est différente avec leur corps. C'est comme, hey, crime, j'aime donc bien ça faire du sport. Donc, peut-être qu'à la base, elles ne nous le disent pas parce qu'elles sont gênées, tu sais. Puis, elles ne nous disent pas qu'elles ont vraiment hâte de perdre leur poids. Puis, je veux dire, moi-même, j'avais surtout hâte d'être en forme, là, parce que j'ai jamais vraiment pensé à mon poids. Mm-hmm. Mais j'avais surtout hâte d'être en forme. Mais on les met dans l'action. Elles goûtent au sport. Ça devient... C'est pas compliqué. Elles sont inscrites 2-3 fois par semaine. Fait que peut-être que ces filles-là, ils nous en parlent pas. Elles veulent perdre leur poids. Elles viennent 2-3 fois par semaine. Là, elles gagnent la musculature. Mm-hmm. Puis finalement, je pense que le poids ne devient plus prioritaire. Mm-hmm. L'expérience de bouger est devenue plus importante que maintenir un poids. Puis on s'entend, là... Avoir un style de vie actif, je veux dire, en tout cas, tu sais, moi, ça fait longtemps que la saine alimentation, ça fait partie de ma vie et que je n'ai jamais compté, tu sais, des calories. Je veux dire, je suis active, je fais du sport, je mange bien ce que je veux, mais 80% du temps, c'est de la bonne bouffe. Fait que c'est ça ce qu'on amène, on essaie d'amener les filles à avoir des saines habitudes de vie. Puis je pense que ça marche quand même parce qu'on s'en fait très peu parler.
Merveilleux, j'aime ça ce que j'entends. Puis j'ai une question aussi. Est-ce que, parce que là, tu dis justement, il y a des gens qui vont comme profiter du congé de maternité pour j'ai davantage. Puis ça, c'est cool aussi quand on parlait de fenêtre d'opportunité. Bien, peut-être qu'au départ, la motivation de la femme, c'était ça, de retrouver son poids initial, mais que finalement, justement, elle découvre qu'elle a du plaisir au travers de l'activité physique.
Oui.
La fille, elle bougeait pas, mettons, avant sa grossesse, qu'elle découvre bougeotte et placotine, qu'elle se met à bouger avec vous. Mais c'est quoi la fin de ça? Tu sais, mettons, moi, mon enfant est rendu à 4 ans, là, bougeotte et placotine. Avez-vous des clients qui restent, même si la maternité est derrière eux?
Oui, on a vraiment une, tu sais, je dirais pas toutes, là, surtout celles qui habitent un petit peu plus loin, mais ouais. Moi, je donne un cours justement de course, tu sais, ça fait 9 ans que je donne, c'est mes premières clientes.
Ah ouais, c'est ça.
J'ai développé une relation avec eux. Et c'est que ça arrive que nous, on est un centre pour les femmes. Fait que, tu sais, moi, maintenant, quand j'ai des filles qui sont plus, tu sais, 35-45 dans mes cours, donc c'est plus la gang, tu sais, de 25-35, tu sais, qui ont leur premier bébé puis tout ça, tu sais. Là, c'est aussi quand même un centre qui est axé sur la femme. C'est un groupe de femmes qui sont ensemble. Puis, tu sais, ça quand même aussi, c'est une expérience qui rejoint beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, ça, tu sais, de dire, moi, je pense à ça, là, maintenant, je peux plus entraîner la fille de 27 ans comme la fille de 42, là. Je veux dire, il faut qu'on évolue avec les femmes. On offre même des cours, mais là, un petit peu moins en ligne, mais habituellement en succursale pour les femmes qui ont des douleurs au dos, les femmes 60 ans et plus. Donc là, tu sais, nous, on s'intéresse à la santé de la femme en général. Fait que oui, en fait, on a des cours de fin de semaine aussi, théorie familiale. Donc, papa vient avec l'enfant aussi. C'est quand même le free-for-all dans ces cours-là. Des cours de soir, en fait, surtout là, pour les femmes que justement, ont recommencé à travailler.
Ah, cool. Fait que, est-ce que tu penses justement qu'il y a quelque chose à côté de quoi on aurait passé côté entraînement? Puis là, tu vois, tu m'as aussi fait réaliser, tu sais, on voit que c'est toi l'experte, tu m'as aussi fait réaliser que j'avais complètement skippé l'accouchement, mais c'est clair que, puis tu sais, je t'écoutais parler tantôt de l'accouchement, puis même en termes aussi d'endurance que la femme développe avec l'entraînement, là, c'est clair que ton corps est plus préparé, j'imagine, à subir quelque chose qui est aussi demandant quand on est habitué de le faire travailler puis de sortir de notre zone de confort aussi. Là. Mm-hmm. Fait qu'est-ce que tu as l'impression qu'il y a quelque chose là, qu'on passe à côté que je t'ai pas demandé, que tu aimerais ajouter ou on a réussi à faire un beau topo là, par rapport à ce qui est entraînement et grossesse et postnatalité?
Mais en fait, je ferais juste un lien avec ce qu'on fait nous puis ce que tu fais toi. En fait, tu sais, quand on parle beaucoup d'alimentation intuitive, tu sais, je pense que tu as fait un post là-dessus d'ailleurs très récemment. Puis, c'est ça, hein, je l'ai vu. Puis, en fait, c'est un peu la même chose qu'on essaie de faire. On essaie de responsabiliser les femmes qu'elles soient plus connectées avec leur corps. Puis ça va les aider pour toute leur vie. Ça va les aider pour l'accouchement. Ça va les aider pour les décisions qu'elles vont prendre pour leur bébé aussi. Ça va changer la relation qu'elles ont avec elles. Donc, on essaie, nous aussi, par l'activité physique, de pas dire, mettons, voici ce que tu dois faire pour perdre ton poids. Fais ce plan d'entraînement-là. Tu sais, c'est comme, tu vas trouver beaucoup de réponses à l'intérieur de toi, puis ce qui te convient et ce qui ne te convient pas, parce que l'activité physique, on veut qu'elle fasse partie du style de vie, tu sais, de la personne. On veut pas que ça soit quelque chose de plate installé dans sa semaine. On veut que ça soit un bonbon pour elle dans sa semaine. Donc, c'est un peu aussi, je trouve que ça rejoint quand même, tu sais, c'est d'amener les personnes à être bien, bien dans leur peau, bien dans leur corps. Puis nous, on fait juste, dans le fond, les accompagner là-dedans. Puis on n'est surtout pas des gens qui vont toutes leur dire quoi faire, puis de dire, on a les réponses, c'est nous qui décidons si tu cours, si tu cours pas, si tu fais ça, tu sais, c'est comme de se responsabiliser, puis c'est ça, de développer justement ce côté-là intuitif et unique qu'elles ont, la relation qu'elles ont avec leur corps.
Oui, je trouve ça hyper intéressant. Puis c'est cool justement parce que c'est un mix de comme fais ce qui te fait du bien à toi, puis selon ton feeling, puis selon tes décisions, mais avec nos conseils d'experts aussi pour que ce soit fait adéquatement en fonction de comment toi tu te sens. Tu sais, tantôt, je te disais aussi, moi j'ai le feeling que la planche c'est bon, mais des fois nos feelings ils peuvent nous tromper. Ouais. Fait que là, c'est comme le mix parfait justement de fais ce qui te convient. Mais nous, on est là juste pour t'accompagner puis pour que tu le fasses le mieux possible.
Exact.
Mais je pense qu'on s'en va beaucoup là. Puis tu sais, tu parles de justement de l'alimentation intuitive. Là, tu es en train de me dire que ça s'applique vraiment à l'entraînement. Puis je suis totalement d'accord. Tu sais, même à d'autres niveaux de vie, là, au niveau justement de l'entrepreneuriat, là, maintenant, on doit être les slowpreneurs. Puis tu sais, tout justement d'un comme relax, écoute ton corps, puis être plus dans le feeling, dans le moment présent, puis tout. Je trouve ça vraiment beau là, comme mouvement aussi. Là.
Tout à fait.
Hey, ben, merci.
Je suis persuadée, Vanessa, on s'écrira avant, mais moi, Si tu fais un autre podcast sur l'alimentation, je vais pouvoir te donner plein de questions que les clientes nous posent à ce sujet-là. Ah, je sais pas de quoi faire avec ça.
Oui. Ben oui, vraiment, vraiment cool. D'après moi, il va y avoir de la demande pour
ouais.
de ce que je file sur les médias sociaux. J'ai une communauté qui est jeune et sportive, mais comme ma communauté est assez jeune, justement, j'ai quand même beaucoup de jeunes mamans et de mamans en devenir. Donc, écoute, merci beaucoup, Sarah. Si on veut vous joindre, à quel endroit on peut vous trouver? Donc, j'imagine, site web, les médias sociaux, puis tout, là. Dis-nous où on vous trouve.
Ouais. On a un compte Instagram. On essaie justement de mettre beaucoup de conseils, des capsules aussi dessus, ainsi Bougez tes placotines. On a la page Facebook aussi, même chose. Tout est sur notre site Internet. Tout ce qui est inscription, tous nos ateliers, nos présentations, c'est vraiment sur le site Internet. On a aussi des causeries. Donc, notre but, c'était durant la COVID aussi de permettre cet échange-là entre les mamans. Donc, des causeries gratuites qui se retrouvent dans nos événements de la page Facebook aussi. Donc, on est un petit peu partout, puis c'est ça, dans le fond, tu sais, nous, on veut juste accompagner, donc il n'y a pas de gêne si les mamans, là, suite au podcast, ont des questions, ça va vraiment me faire vraiment, vraiment, vraiment plaisir d'y répondre.
Merci beaucoup, Sarah. Je te souhaite une belle journée puis un beau week-end.
Merci à toi.
Bye. Merci énormément du temps que tu as passé avec moi. Je suis consciente qu'en 2020, le temps, c'est une ressource qui est limitée et tellement précieuse. Donc, si j'ai eu la chance de t'avoir à mes côtés pendant quelques minutes, c'est tout un privilège pour moi. Donc, je te souhaite une belle fin de journée et on se dit au prochain podcast.